Chapitre 12. Prise au piège.
L'attaque des pirates avait été une franche surprise, preuve évidente que le perfide Crochet ne l'avait pas menée selon les règles, car pour surprendre les peaux rouges, les blancs doivent se lever matin. D'après les lois non écrites de la guerre sauvage, c'est toujours aux peaux rouges d'attaquer, et cette race rusée attaque juste avant l'aube, sachant qu'à cette heure-là, le courage des blancs est à son point mort. Telle est la procédure normale, et Crochet la connaissait si bien qu'il ne pouvait mettre son entorse au protocole sur le compte de l'ignorance. Pour leur part, les Picanini avaient une entière confiance dans son sens de l'honneur, et toute leur conduite au cours de cette nuit contraste sévèrement avec celle du capitaine des pirates. Ils ne négligeaient rien de ce qui pouvait contribuer à la réputation de leur tribu. Avec cette alacrité des sens qui fait l'admiration et le désespoir des peuples civilisés, ils surent que les pirates étaient dans l'île dès l'instant où le premier d'entre eux marcha sur une brindille sèche. Et l'instant d'après, les cris des coyotes débutaient. Chaque pouce de terrain, compris entre le lieu de débarquement des forces ennemies et la maison sous les armes, fut exploré par des éclaireurs qui chaussaient leurs mocassins, le talon tourné vers l'avant. Ils ne découvrirent qu'une seule butte qui eut un cours d'eau à ses pieds, si bien que Crochet n'avait pas le choix. Il devait s'établir là et y attendre le moment qui précède l'aube. Comme il rêvait tout éveillé aux tortures exquises qu'il lui infligerait au lever du jour, ses confiants sauvages furent découverts par leur déloyal adversaire. D'après les récits des rares rescapés du carnage, Crochet ne se serait pas arrêté un seul instant sur la butte. Pourtant, il ne pouvait pas ne pas la voir dans la clarté grise de l'avant-aube. Pas un moment l'idée d'attendre qu'on l'attaque ne l'effleura, et il ne patienta même pas jusqu'à la fin de la nuit pour leur tomber dessus. Que pouvaient faire ces guerriers déconcertés, experts comme ils l'étaient en toute espèce de ruse de guerre sauf celle-là, sinon trotter désespérément derrière lui, s'exposant à découvert sans cesser de moduler le cri coyote avec des inflexions pathétiques. Autour de la vaillante Listigré se tenait une douzaine de braves parmi les plus costauds. Ils virent soudain les pirates sans scrupule fondre sur eux. Alors tomba le voile à travers lequel leurs yeux avaient contemplé la victoire. Adieu, torture autour du poteau. À eux de partir pour les bienheureux terrains de chasse céleste. Ils le savaient, et cependant ils se comportèrent en dignes fils de leur père. Il leur eût été encore possible, s'ils s'étaient levés promptement, de se grouper en une phalange difficile à forcer. Mais les traditions de la tribu le leur interdisaient. Il est écrit que le noble sauvage ne doit jamais montrer sa surprise en présence des blancs. Quelque terrible qu'ait pu leur sembler l'apparition soudaine des pirates, ils restèrent immobiles, sans broncher, comme si l'ennemi était venu sur invitation. La tradition ayant été respectée, alors seulement ils saisirent leurs armes. L'air retentit de cris de guerre, mais il était trop tard. Il ne nous appartient pas de décrire ce combat, ou plutôt ce massacre. Cette nuit-là fut moissonnée la fine fleur de la chevalerie picaninienne. S'ils moururent, ce ne fut pas sans être vengés, car avec Loup Maigre tomba Alf Mason, terreur de la mer des Caraïbes, d'autres encore mordirent la poussière, tels Joe Scourie, Chasterly, et cette vieille baderne de Fogerty. Turley fut fauché par le tomahawk du terrible panthère, qui se tailla finement un chemin à travers les rangs des flibustiers avec Listigré et le pauvre reste de sa tribu. À l'historien de décider jusqu'à quel point Crochet mérite d'être blâmé pour sa tactique. Eût-il attendu sur la butte le réglementaire de l'attaque, lui et ses hommes eussent été massacrés. Dès lors qu'on le juge, il est juste d'en tenir compte. Du moins aurait-il pu informer l'adversaire qu'il se proposait de suivre une nouvelle méthode. D'un autre côté, dès l'instant que l'effet de surprise était détruit, sa stratégie devenait caduque. De quelque point de vue qu'on l'envisage, le problème se hérisse de difficultés. Du reste, on ne peut se retenir d'admirer, bien qu'à contre-cœur, l'esprit qui conçut ce plan audacieux, et le génie cruel qui mena à bien l'entreprise. Mais Crochet lui-même, que ressentait-il en cette heure de triomphe? Ses acolytes auraient donné gros pour le savoir, tandis qu'à une distance respectable de sa griffe, ils haletaient péniblement en nettoyant leurs coutelas et lorgnaient de leurs yeux de furet cette pomme hors du commun. Si l'orgueil du triomphe gonflait son cœur, du moins son visage demeurait-il impassible. Énigme ténébreuse à jamais solitaire, il se tenait de corps comme d'esprit à l'écart de ses hommes. Cependant, la besogne n'était pas terminée. Ils n'étaient pas venus pour détruire les peaux rouges, ceci n'était que les abeilles qu'il faut enfumer pour parvenir jusqu'au miel. Ce qu'ils voulaient, c'était Pan, Wendy et toute la bande, mais surtout Pan. On s'étonnera qu'un petit garçon comme Peter pût inspirer une telle haine à cet homme. Il est vrai qu'il avait jeté le bras de Crochet au crocodile, mais ce même fait, et l'insécurité permanente qui en résultait, étant donné l'opiniâtreté du crocodile, justifiait difficilement un désir de vengeance aussi implacable. En vérité, il y avait chez Peter un je ne sais quoi qui exaspérait le pirate jusqu'à la transe. Ce n'était pas son courage, ni même sa tournure avenante. Ce n'était pas non plus... Mais pourquoi tourner autour du pot, puisque nous savons très bien ce que c'était, et que le moment est venu de le dire. C'était le toupet de Peter. Voilà ce qui agaçait Crochet. Et sa griffe en tremblait de rage. La nuit, ce toupet l'obsédait tel un insecte fastidieux. Aussi longtemps que Peter vivrait, cet homme ressentirait le supplice d'un lion encagé avec un moineau. La question qui se posait maintenant était de savoir comment faire pour descendre par ces arbres, ou comment faire descendre ces hommes. Il les examina un à un de son regard en vrille, cherchant à distinguer les plus maigres. Eux se trémoussaient mal à l'aise, sachant qu'il ne se ferait aucun scrupule de les y enfoncer jusqu'en bas avec des perches. Et les enfants, pendant ce temps-là, nous les avons laissés transformer au premier choc des armes en statues de pierre, bouche bée, tout suppliant et les bras tendus vers Peter. Nous les retrouvons à présent, bouche refermée et les bras ramenés le long du corps. Le tohu-bohu là-haut a cessé aussi soudainement qu'il commença, comme passe une bourrasque orageuse, mais ils savaient qu'au passage, elle avait décidé de leur sort. Quel parti était le vainqueur? Les pirates, qui tendaient anxieusement l'oreille à l'orifice de chaque arme, entendirent cette question posée par les garçons. Hélas, ils entendirent aussi la réponse. Si les peaux-rouges ont gagné, disait Peter, ils vont battre le tam-tam en signe de victoire. Smee avait trouvé le tam-tam et en ce moment était assis dessus. « Jamais plus vous n'entendrez le tam-tam, » marmonna-t-il de façon inaudible. Bien sûr, car Crochet leur avait enjoint de se taire. À sa grande surprise, le capitaine lui fit signe de taper sur le tam-tam. Lentement, le sens de ce diabolique stratagème se fraya un chemin sous le crâne épais de Smee. Jamais, sans doute, cette âme naïve n'avait autant admiré son chef. Par deux fois, Smee battit du tambour, puis écouta joyeusement. « Le tam-tam, » s'écria Peter. Une victoire indienne. Les malheureux enfants lui répondirent par des acclamations qui résonnèrent comme une musique divine aux oreilles scélérates qui écoutaient là-haut. Presque aussitôt, ils renouvelèrent leurs adieux à Peter, ce qui surprit les pirates, mais leur étonnement fit place à un sentiment mesquin de soulagement. Ils n'auraient pas à descendre puisque l'ennemi s'apprêtait à monter. Ils échangèrent des sourires tout en se frottant les mains d'avance. Rapidement et sans faire de bruit, Crochet donna des ordres. Un homme posté à chaque arbre, les autres rangés en file à 2 mètres de distance.